Bonjour, je suis Wadji et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de prématurité. Vous entendrez ici des récits, des témoignages de mères, de pères qui vous racontent sans filtre, avec émotion, parfois avec humour, leur entrée si particulière dans la parentalité et la naissance prématurée de leur enfant. Grâce à leurs récits, vous mettrez, je l'espère, des noms, des émotions, un vécu sur des statistiques ou des cas médicaux. Et si vous-même vous êtes parent de prématuré, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul à vivre ou avoir vécu cette expérience et que vos émotions, vos réactions, vos peurs et vos joies sont légitimes. Vous entendrez aussi des invités vous expliquer l'univers de la prématurité et apporter des réponses concrètes à vos questions. Bienvenue dans ces familles, bienvenue dans leur histoire, bienvenue chez Histoire de Prima. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter ce nouveau podcast et de venir à la découverte des histoires de parents de prématurés, de leurs peurs, de leurs peines, de leurs joies, mais aussi de leurs espoirs. Dans ce premier épisode, je vais tout d'abord rappeler la définition de la prématurité et revoir quelques termes techniques. Donc, est considérée comme prématurée toute naissance qui survient avant 37 semaines d'aménorrhée révolue, soit 35 semaines de grossesse, soit 8 mois de grossesse. L'aménorrhée est l'absence des règles ou de menstruation chez la femme non ménopausée. De manière générale, le corps médical utilise les semaines d'aménorrhée pour désigner le stade avancé d'une grossesse, car cette méthode est normalement plus précise. Le point de départ du décompte est le premier jour des règles, soit environ 14 jours avant la fécondation. Et donc on considère une naissance comme prématurée modérée lorsqu'elle survient entre la 33e et la 37e semaine d'aménorrhée. On considère un enfant grand prématuré lorsqu'il est né entre la 28e et la 33e semaine d'aménorrhée et très grand prématuré lorsqu'il est né avant la 28e semaine d'aménorrhée. À chaque épisode, vous trouverez toutes les définitions et termes techniques dans les notes de l'épisode et toutes les semaines énoncées dans le podcast sont des semaines d'aménorrhée. Alors, ici, dans ce podcast, on parlera de grossesse à risque, de menaces d'accouchement prématuré, de violences gynécologiques, de l'allaitement chez les prématurés, mais aussi des moyens mis en place par l'État ou les hôpitaux pour accueillir les bébés préma, mais aussi soutenir les parents. On évoquera aussi le deuil périnatal, la solitude, la culpabilité, mais aussi et surtout l'espoir et la résilience. Je ne pouvais pas commencer ce podcast sans évoquer les raisons qui m'ont poussé à le lancer et à partager ces histoires, ses parcours. Donc dans ce premier épisode, je vais revenir brièvement sur mon expérience de la prématurité, celle qui m'a poussée fin 2016 à recueillir ces témoignages et à échanger avec des parents ayant vécu la même expérience. Si Histoire de Préma est née, c'est à cause d'Aélis, ma fille. Aélis est née à 35 semaines d'une grossesse psychologiquement éprouvante sur la fin. À ma 30e semaine, j'ai été hospitalisée pendant 8 jours pour menace d'accouchement prématuré. Alors je me suis retrouvée pendant 4 jours à enchaîner les perfusions pour pouvoir arrêter les contractions, maturer les poumons de bébé au cas où. Et donc à l'issue de cette hospitalisation qui a été plutôt pénible, à plein de niveaux, j'ai eu comme consigne de rester alitée pendant toute la durée restante de ma grossesse ou au moins jusqu'à la sortie de la prématurité et d'avoir le droit de me lever que pour aller prendre une douche rapide ou pour aller aux toilettes. Alors psychologiquement c'est dur, je me demandais ce que j'avais fait de mal, ce que j'avais mal fait, est-ce que c'était de ma faute, comment ça se faisait que mon corps flanchait, pourquoi est-ce que mon corps flanchait justement, je lui en voulais, je me sentais coupable. Et puis je voyais d'autres femmes enceintes autour de moi rester beaucoup plus actives et sans souci majeur de santé à ce niveau-là. Et donc j'en ai voulu à mon corps et j'avais l'impression de vivre avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de l'utérus. Parce que du coup, tous les matins, on se lève, je me lève en espérant d'arriver à la fin de la journée sans avoir plus de 10 contractions au lit par jour, sans perdre les os, sans mettre au monde trop tôt ce petit être pas encore prêt. Et tous les soirs, je m'endors en me disant oui, d'accord, c'est bien. Comme il disait souvent à la maternité, une journée de gagner est un risque en moins pour bébé. Donc je me disais c'est bon, je me félicitais d'avoir tenu une journée de plus. Je me levais le lendemain et je recommençais jour après jour. Ça devient très vite long, ça devient très vite pénible, ça devient très vite difficile à vivre. Mon corps n'aura tenu que 4 semaines, au lieu des... Déjà, il fallait 6 semaines pour sortir de la prématurité, 11 semaines pour arriver à terme. Donc, j'ai tenu 4 semaines. Et Ailis est née donc à l'issue d'un accouchement qui, à l'opposé de tout ce que j'avais vécu sur cette fin de grossesse, était à peu près l'accouchement dont j'avais rêvé, peut-être même mieux, grâce à la magnifique, la génialissime équipe de la maternité des Dila, où donc j'ai accouché de cette petite merveille qui, malgré son accouchement prématuré, n'avait pas de soucis particuliers ni de complications pendant les premières 24 heures. Alors, le lendemain de sa naissance, alors que je l'admirais, et en me disant, ah, que la petite merveille qui m'a fait l'honneur de me choisir comme maman, je l'ai vue ne plus respirer, devenir livide, puis bleu, quasiment violet, sans réaction. Et jusqu'à la fin de mes jours, j'oublierai jamais ma course dans les couloirs de l'hôpital à la recherche d'un médecin, mon bébé sous les bras, en train de hurler partout, elle ne respire plus, elle est bleue, elle ne respire plus, elle est bleue. Alors, pardon. Et un petit moment, même en en parlant maintenant encore, c'est un souvenir qui reste plutôt vif, on va dire. Et donc, les médecins ont aussitôt accouru, elle a reçu de l'oxygène, elle a repris une couleur normale. Elle est restée en observation sous une couveuse à la maternité pendant toute la journée. J'y allais juste pour essayer de la nourrir parce que du coup elle était, on va dire, plutôt amorphe et ne réagissait pas beaucoup. Donc elle était censée donc rester toute la journée en observation. J'étais censée la récupérer au petit matin. Et dans la nuit, à 1 h du matin, il y a une sage-femme qui vient me voir dans ma chambre, me réveillant, me expliquant tout du plus calmement possible, que son état avait empiré, qu'il ne s'était pas amélioré du tout, loin de là, et qu'il allait falloir la transférer d'urgence dans un hôpital avec un service de soins intensifs, néonat et réanimation mieux équipé pour diagnostiquer et traiter son problème. Donc, deuxième moment plus dur de ma vie, c'était de rester derrière la vitre, derrière la porte de la maternité à regarder l'ambulance, le SMUR, l'ambulance pédiatrique néonate, emmener la petite dans une sorte, dans une, enfin même pas une couveuse, dans un caisson oxygéné loin de moi, avec comme seule consolation me dire qu'au moins son père, il est à ses côtés, elle n'est pas toute seule. Mais moi, malheureusement, je ne pouvais pas la suivre. Bah, je venais juste d'accoucher, donc j'étais encore en observation à la maternité. Donc je me suis retrouvée à errer dans les couloirs, en plein milieu de la nuit, seule, cramponnée à son doudou, vous imaginez bien les larmes aux yeux. Et pour finir, c'est la sage-femme qui m'avait réveillée, qui m'a raccompagnée à ma chambre, en m'expliquant qu'elle prendrait des nouvelles, qu'il fallait que j'essaie de dormir. Elle me tiendrait au courant et son contact avec l'hôpital. Et dès le lendemain, on essaierait de voir comment faire pour que je puisse aller au moins la voir. Donc le lendemain, la maternité m'offre un taxi pour du coup la retrouver à Bondy, à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, pour pouvoir la voir, en savoir plus, essayer de parler au médecin, chose que je n'ai pas réussi à faire. C'est moi, je crois que c'est mon mari qui a fait tout le qui a tout écouté. J'étais pas dans l'état de recevoir des instructions médicales, on va dire. Je suis arrivé, je l'ai vu dans son box, donc ils ont sacré un box dans son box, dans sa couveuse, relié à une trentaine de fils, une sonde gastrique dans le nez pour pouvoir la nourrir, toute fragile, sous des lumières, avec des bandeaux, tout en couche. C'était en souffrance et avec les bips qui n'arrêtaient pas de sonner. Donc, c'était pas du tout l'image que je m'étais faite de mes premiers jours de maman, de nouvelle maman. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on passait dans un autre monde hyper médicalisé, c'est la réanimation néonate, après tout. Et c'est pas du tout, on va dire, le postpartum rêvé. Donc, une nouvelle vie a commencé, tout un nouveau rythme qui n'était pas non plus celui rêvé. Donc, se lever toutes les 2 à 3 heures pour tirer du lait, pour le stocker dans le frigo. Se lever le matin, à peine prendre une douche, même pas temps de prendre le petit déjeuner, retirer du lait, appeler l'hôpital, prendre des nouvelles de la nuit, savoir comment ça s'est passé, courir à l'hôpital, enfiler une blouse de protection, se stériliser les mains, se diriger vers le box, revoir son bébé allongé avec tous les scopes, la sonde et tout autre attirail nécessaire pour les examens en cours, passer la journée assis à côté de sa couveuse, sans même prendre le temps quasiment de manger à midi pour ne vraiment rien louper, pour juste rester à côté, lui chanter des chansons, lui lire des histoires, le bal des infirmières et des médecins, repousser l'heure du départ, éventuellement devoir la quitter car il faut rentrer, manger, se reposer et recommencer tout ça le lendemain. Ailis a finalement fait 16 jours en soins intensifs néonates. Elle va très bien. Il y a eu encore quelques petits soucis lors de ses premières. Elle a 3 ans et demi maintenant. Il y a eu quelques petits soucis lors de ses premières années de vie, une petite opération nécessaire. Mais à part cela, tout va très bien. C'est une petite fille pleine d'énergie, bavarde, parfois un peu trop bavarde. Pour nous, elle n'a aucune différence avec un bébé né à terme. Seulement, à part du coup, les petits problèmes de santé, les petits problèmes au démarrage, comme on va dire ça, qu'on a eu. Mais surtout, on n'oubliera jamais l'expérience, enfin, je n'oublierai surtout, mon mari non plus, je n'oublierai jamais l'expérience de la néonate. Parce que je pense qu'une partie de moi sent encore coupable. De ne pas avoir, déjà de ne pas savoir pourquoi il n'y a pas eu je n'ai pas eu d'infection, je n'ai pas eu de problème de prééclampsie, c'était juste un accouchement prématuré spontané. Donc je me dis toujours que j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais dû faire mieux, j'aurais peut-être pu la garder plus longtemps au chaud dans mon ventre. Mais avec des si, bien sûr, on refait le monde. Mais voilà, j'oublierai jamais les pleurs terribles, les cris de douleur, les infirmières à la recherche d'une veine sur un petit bébé d'à peine 40 cm qui essaie de lui faire une prise de sang, lui poser une intraveineuse et sa peau devenue bleue, la douleur de la séparation quotidienne, les soins, les branchements, les premières fois qu'on n'a pas pu faire, par exemple, on n'a pas pu être les premiers à lui donner son premier bain, le premier biberon de lait maternel qu'elle a pris, c'est un biberon, je me rappelle, de 20 millilitres qu'elle a pu terminer, on n'était pas là. Et voilà, mais à côté de tout ça, j'oublierai jamais l'amour, mais les progrès qu'elle a fait, toutes les premières fois, la première tétée finalement réussie au bout de larmes et de désespoir, les peau à peau, les premiers moments d'éveil, les câlins certes différents du fait de tous les branchements qu'elle a pu avoir posés sur elle, le soutien des équipes, le soutien des autres mamans qui vivaient la même chose, qui avaient aussi leurs petits dans des box à côté, qui passaient des journées comme nous, des autres mamans et des papas d'ailleurs, qui passaient des journées comme nous à l'hôpital. Tout ça, c'est une expérience qui m'a en tout cas profondément marqué. Pardon, je le dis. Voilà. L'une des choses qui m'a le plus manqué, par contre, pendant cette expérience, c'était les témoignages, les retours d'expérience, mais du coup, d'autres parents, d'autres mères passées par là, autres celles qui passaient par là en même temps que moi. Je voulais savoir, pour celles qui étaient passées par là avant moi, comment ça se passait. Et après avoir parlé avec surtout les puéricultrices, bah, certaines sages-femmes avaient vécu la même chose, d'ailleurs. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir finalement ressenti ce manque de témoignages autres que les forums. Alors, mon premier gros conseil aux parents de prématurés, d'ailleurs à toutes les femmes enceintes, c'est le premier conseil qu'on nous donne, ne pas faire de recherche internet, ne pas lire les forums style Doctissimo, non, du tout, c'est la chose à éviter. Bref, donc, après avoir parlé avec d'autres mamans qui vivaient la chose en même temps que moi, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de retour d'expérience et c'est là où l'idée est venue de lancer Histoire de Prima, donc, qui était au début sous la forme de témoignages écrits et qui maintenant devient un podcast. Et donc, dans ce podcast, je vous conterai des témoignages de parents. Alors, pourquoi ce format? Tout d'abord, parce que c'est pratique. Étant basé en région parisienne, c'est plus facile pour moi de vous conter du coup ces histoires de parents, mais de partout en France, mais même hors de la France, j'ai reçu des témoignages de Tunisie et tout. Donc le format récit est beaucoup plus pratique, mais aussi, surtout, ce que j'ai Je tire de mon expérience, de tous ces témoignages que j'ai déjà recueillis. C'est aussi un côté cathartique à la chose, le fait d'écrire, de poser les mots que l'on veut sur l'expérience, sur ses sentiments, son émotion. Moi, j'avais fait cet exercice sur mon blog à l'époque, quand j'avais raconté la naissance prématurée d'Élie. Ça m'a aidé, entre guillemets, enfin, vraiment à exorciser la chose. Et certaines mamans qui m'ont envoyé leur témoignage ont eu ce même sentiment d'enfin pouvoir poser sans frein, sans avoir quelqu'un qui pose la question et qui oriente la réponse, poser son ressenti sans culpabilité, sans honte, sans. Voilà, juste dire les choses. Donc, c'est pour ça que je privilégie ce format. Mais je parlerai aussi avec des invités autour de différents thèmes pour donner des réponses beaucoup plus concrètes autour de la prématurité. Et donc, si vous voulez témoigner, partager votre histoire ou intervenir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou via le site histoiredeprima.com. Et vous pouvez vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et les différentes plateformes dédiées. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message et à dans 15 jours pour une nouvelle histoire de Prima.